Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1051. Jean au micro, salut.
Ben seni sevdim ya, dünyalara bildirdim. El durdun kaşlarını, babanim bildirdim. El durdun kaşlarını, el durdun kaşlarını, babanim bildirdim.
Benseni Sevdugumi, une chanson, créée par le chanteur turc Kazım Koyunsu, qui est disparu en 2005. Première version, deuxième version avec Kazım Koyunsu, cette fois-ci en duo avec la chanteuse turque Seval Sam.
Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Endirdin kaşlarını, babani mi yıldırdım? Endirdin kaşlarını. Endurdun kaşlarını, babani mi yıldırdım? Thank you. Endereye, dereye, dağal dereden taşları. Endereye, dereye, oy al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. Sereceğim kilimi. Oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim, görmedim sevdiğimi. Geldi bahar geldi, oy kaçtı yeşil yapraklar. Yaz geldi bahar geldi, oy açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar.
La chanson donc Ben Seni Sevdugumi, avec une deuxième version de cette chanson créée par Kazım Koyunsu, deuxième version interprétée par Kazım Koyunsu en duo avec la chanteuse Seval Sam. Troisième version, cette fois-ci la chanteuse Seval Sam, toujours la même chanson, mais en solo. Benseni Sevdugumi, quatrième version avec le chanteur Makali Hassantunk.
Ben seni sevdim, ida dünyalara bindirdim. Ben seni sevdim, ida dünyalara bindirdim. Endürdüm kaşların, bobali, bobalimi endürdüm. Endürdüm kaşlarını, endürdüm kaşlarını, bobali, bobalimi. En dereye dereye da al dereden taşları, en dereye dereye da al dereden taşları. Bizden geçti sevdalı, al çabuk, al çabukten saçları. Bizden geçti sevdalı, bizden geçti sevdalı, al çabuk, al çabukten saçları. Kız yavrunun önüne sereceğim gelimi, kız yavrunun önüne sereceğim gelimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevgilimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevgilimi. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun da, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun da, doysun kara topraklar.
Et on termine cette petite séquence consacrée à la chanson Benseni Sevdugumi créée par Kazim Koyunsu par une dernière version actualisée, on va dire, de Chantal.
Thank you. creep on my door. Don't give me that brother, brother, brother.
Le passage a été un peu brusque de la chanson turque à John Lennon, I Found Out, en 1970, Plastic Ono Band.
Do it!
magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans quelques minutes, dans 5 minutes, le journal de Tumult, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Et tout ça se fera en compagnie de Guy et d'un autre invité dont on parlera plus tard. On reste avec John Lennon, un dernier titre. Well, well, well. Journal de Tumult avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Avec nous aussi Philippe, qui, on l'espère, sera un futur intervenant dans Tumult en philo. Au sommaire de ce journal, la question de la dette publique en Europe, les politiques d'austérité mises en place face à cela. Et puis peut-être les retraites, bilan d'un mouvement social.
Oui Jean, puis il faudra que tu nous parles un petit peu de ton voyage quand même, hein, puisque tu as été absent quelques jours, quelques semaines, et il y a des auditrices, des auditeurs qui sont inquiétés, hein, de cette absence, et donc il faudra quand même...
Beaucoup de mails.
Ouais, il faudra leur dire, raconter un petit peu ce que tu as fait. Alors oui, bon, on va quand même commencer par le commencement, n'est-ce pas ? Et puis une question qui peut faire le lien entre Laurent, un intervenant historique de Tumult, et Philippe, donc peut-être qui va nous rejoindre. Cantona est-il un philosophe ? Bon, on va commencer par voir, est-ce que Cantona est un économiste, hein, peut-être ? Avec donc son initiative, Laurent, je ne sais pas si tu es allé à la banque, tu es allé chercher l'argent que tu avais à la banque.
Ça m'a un petit peu tenté quand même. Cette histoire. Je trouve ça assez, assez original et en même temps pas complètement déluré. On s'est rendu compte ces derniers temps qu'il y a de la contestation, pas seulement du côté salarial, on pourrait dire, il y a aussi de la contestation, des nouvelles formes de contestation du côté de la consommation. Et en même temps, on est tous des travailleurs et des consommateurs. Il y a eu, par exemple, l'affaire un peu retentissante d'une compagnie low cost là qui a un petit peu exagéré sur les escales Et l'ensemble des passagers sont restés dans l'avion en disant que là, maintenant, ils ne voulaient plus bouger et qu'il fallait essayer de leur trouver une solution. Alors, certains peuvent trouver peut-être un peu ridicule les mouvements sociaux des consommateurs, mais finalement, c'est pas inintéressant que les gens se disent « bon, on est exploité des deux côtés, finalement ». On est exploité en tant que salarié et on est aussi torché en tant que consommateur. Et peut-être, alors c'est peut-être pas ce raisonnement-là qu'ils font, mais ceci est peut-être la conséquence de cela. Parce que du coup, qu'on est exploité en tant que salarié, il n'y a plus beaucoup de sous. On est obligé de consommer des produits frelatés ou dégradés. Et puis c'est finalement à cet endroit-là que se manifeste clairement à leurs yeux le côté « on a exagéré aussi sur vos revenus ». Bon. Et Cantona, il fait un truc un peu pareil, il prend la contestation non pas du côté du rapport salarial, mais du rapport de l'usager des banques, et il dit bon bah pour un petit peu se venger des banques ou essayer de piéger le système par l'endroit où il pêche, on va retirer notre argent. Donc je trouve que c'est une initiative assez intéressante de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a mieux à faire que simplement retirer notre argent, on pourrait essayer de s'entendre un petit peu collectivement pour créer des banques, de vraies banques coopératives ou de vraies banques mutualistes dans lesquelles le pouvoir ne serait pas usurpé par quelques-uns et où on s'entendrait pour financer des projets utiles socialement, productivement, écologiquement. Ça, ce serait peut-être plus constructif.
Ben vas-y, Jean.
Non, je voulais justement te poser la question, Guy. Est-ce que toi, tu l'avais reçu de manière sympathique le message de
Ah oui,
de
moi, tout ce qui appelle à la révolution, etc., je le reçois de manière sympathique. Hein, et ouais. Donc c'est bien dans ce sens qu'il a été formulé. Bon, sauf que moi, je suis allé à la banque pour retirer mon argent, mais c'est eux qui m'ont demandé de rembourser mes dettes. Quoi. Donc,
il faut encore pouvoir le faire.
Voilà, c'est une révolution quand même pour luxueuse, quoi, hein, pour les gens qui ont de l'argent. Mais bon, justement, sans parler du contexte de la démarche de Cantona, qui a quand même dit ça sert à rien de manifester, ça sert à rien de faire grève, notamment pendant les mobilisations sur les retraites. On en reparlera un petit peu après. Si vous voulez vraiment que ça change, bien retirez votre argent des banques. Alors, économiquement, bon, on en a quand même parlé pas mal de cette affaire au niveau des médias. Et puis, bon, on pouvait même sentir une crainte, des pouvoirs politiques, des directions bancaires. Mmh. Comment ?
Oui, j'ai tout à fait raison.
Donc,
est-ce
que effectivement, ce type d'action, si cette action est suivie massivement, est-ce qu'elle peut ébranler le système ?
Ah, incontestablement. Hein. Si le mot d'ordre entre guillemets avait été massivement suivi, les banques se trouveraient dans une situation très difficile parce que elles devraient convertir nos dépôts. C'est-à-dire nos avoirs en compte courant, voir si on va un petit peu plus loin nos comptes sur livret, en billets de banque de la Banque Centrale Européenne. Et ces billets de banque, elle est obligée de les emprunter à la Banque Centrale Européenne en livrant en contrepartie à la Banque Centrale les crédits ou les créances que cette banque a elle-même sur l'économie. Ça veut dire d'une certaine façon son bilan se rétrécit ou se racrapote. Au passif, elle perd nos dépôts, qui sont ses ressources. Et puis à l'actif, elle perd ses propriétés, qui sont ses crédits sur lesquels elle gagne des intérêts. C'est-à-dire des intérêts sur la dette publique ou sur les crédits aux entreprises, etc. Et ces crédits se retrouvent dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire que faire ça, si c'est massivement suivi, c'est diminuer la part de marché des banques commerciales dans la circulation monétaire et le crédit pour la faire remonter à la Banque Centrale Européenne. Et c'est donc supprimer des sources de revenus importantes aux banques commerciales.
Donc il faut aller retirer son argent, il faut continuer.
Ouais, la question c'était de le retirer pour en faire quelque chose. C'est ça le truc, parce que tu peux pas retirer comme ça facilement... ton argent, quand tu en as, effectivement, Guy.
Il y a des banques où il y a des coopératives même qui existent. Hein. D'ailleurs, voilà. J'ai entendu parler d'une coopérative là, dans le centre de la France qui n'a pas, qui existe depuis une quarantaine d'années, une coopérative financière, quoi, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui n'a pas été reconnue comme banque. Donc elle ne peut pas mener les opérations bancaires classiques. Mais en tout cas, il y a des gens qui s'organisent, qui se regroupent en coopérative pour gérer ensemble leur argent. Mmh. Bon, et puis il y a aussi des organismes bancaires avec des principes bon aussi coopératifs, le crédit coopératif par exemple, bon, mmh. Je vais pas faire de publicité, mais en tout cas qui associe leur démarche financière à bon à l'aide à des mouvements associatifs humanitaires, etc. Donc il y a quand même des choses qui existent et qui se développent peut-être en ce moment.
On va demander à Philippe voilà.
Oui, justement, Philippe.
Notre nouveau alors, venu.
Moi, je trouve que le. Je ne sais pas si Cantona, il est philosophe, mais qu'il y a quand même une idée derrière, c'est que notre argent nous appartient. Donc, on peut aller le retirer, ce qui est quand même finalement ce qui va pas de soi. Quoi. C'est-à-dire, c'est un peu le. Alors, et qu'en plus, si les banques font des choses qui ne nous conviennent pas, bah, on peut tout simplement retirer nos sous, quoi. Donc ça, je trouve que... Effectivement, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mais le simple fait de dire que, finalement, ce qui est dans les banques est à nous, je trouve que c'est... En soi, c'est une idée intéressante. Puis du coup, c'est un peu l'inverse du « sauvons les banques », quoi. C'est « coulons les banques ». C'est pas mal comme...
Donc toi, tu as retiré tes...
Non.
Cantona, tu l'as pas croisé, Cantona?
Alors Cantona, il était dans la Somme aujourd'hui, oui. Voilà. Mais apparemment, il a annoncé qu'il allait retirer des sous, mais apparemment, il serait pas allé, donc je sais pas.
D'accord.
You look at me, I look at you. From your green eyes to your dirty shoes, I wanna know you, what's in your head? You just dancing over there like without a care. You're looking good, you know you do. Your whole crew got that old attitude. But it's okay, baby, you deserve it. You're some Molly Ringwald, you can work it. From my crooked head all the way to my van. Let me talk to you, whisper in your ear, tell you little secrets that you ain't supposed to hear. You're moving like a tornado in Kansas. You're killing this place, I can't handle it. Let me take you out, paint the town red. If I can't have you, baby, I'm the end of it.
Magazine Tumult sur Radio PFM, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La dette publique, Laurent, en Europe, il y a une montée, apparemment.
Il y a un rebond, un deuxième épisode de crash obligataire en Europe après le cas de la Grèce au début de l'année. Maintenant, c'est l'Irlande qui est dans la tourmente. Et puis demain peut-être, on peut presque dire quasiment sûrement, puisque ces scénarios-là sont écrits depuis un certain temps, on en a déjà parlé ici, peut-être demain le Portugal, et pourquoi pas l'Espagne. Et alors après, si c'est l'Espagne, on ne répond plus de rien, ça pourrait être l'Italie et la France. Donc on vit un rebond tout à fait sévère de la crise des dettes publiques qui avait commencé en Grèce.
Alors la raison en fait de cette montée de la dette publique.
La raison.
Parce qu'on a à peu près compris ce que tu nous avais expliqué sur la crise financière des États-Unis, hein, avec les subprimes et compagnie. Après la montée de la dette publique en Europe, dette privé, public, je sais pas justement.
Public essentiellement, mais oui, quoi qu'on.
Parce qu'on dit qu'on fait, ouais. On dit qu'il faut faire la différence, par exemple, entre la dette en Grèce qui serait une dette publique et la dette irlandaise qui serait une dette privée rendue publique.
Oui, parce que en Irlande, les deux cohabitent, dette publique et dette des banques. Et l'Irlande a été presque, on pourrait dire, le modèle européen de ce qui s'est fait dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement aux États-Unis. En fait, ce qui arrive à l'Irlande aujourd'hui, c'est quasiment le décalque du point de départ, c'est-à-dire ce qui est arrivé aux États-Unis il y a 2 ans. Ce qui a été le moteur de l'économie irlandaise sur les 10 dernières années, ça a été le boom de l'immobilier. Boom de l'immobilier encouragé par les banques avec des crédits qui sont très ressemblants aux crédits immobiliers américains, qui ont encouragé donc un endettement prodigieux des ménages. Cet endettement prodigieux des ménages a solvabilisé une demande de logement qui a fait monter les prix à des niveaux stratosphériques. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Comme ces prêts et cet endettement étaient déconnectés de l'évolution des revenus des ménages en question, uniquement gagés sur l'évolution du prix des biens immobiliers, est arrivé un moment où les ménages américains, le lapsus est tout à fait révélateur, les ménages irlandais ne pouvaient plus rembourser. Donc le secteur de l'immobilier s'est effondré, enfin les échanges sur le marché des biens immobiliers s'est effondré, les prix ont baissé de manière dramatique, les banques ont vu les crédits de moins en moins remboursés, et donc les créances qu'elles avaient faites se déprécier dans leur bilan et être en quasi-faillite. Bon. Et puis de cette crise est venu, comme partout en Europe, l'effondrement de la consommation, qui a fait plonger et les restrictions sur le crédit qui ont fait plonger l'activité économique. Donc le plongeon de l'activité économique a creusé profondément les déficits publics, pendant que les banques elles-mêmes, de leur côté, se trouvaient en quasi-faillite et obligées de se refinancer. Voilà. Donc on est vraiment dans une situation là très similaire à ce qui était le cas il y a encore 18 mois aux États-Unis.
Alors sinon, la question un peu de, je dirais, qui porterait la question justement, pas sur la conjoncture stricte, mais sur le fond des politiques économiques de ces 20 dernières années. Il semble que ce soit lié au transfert d'une partie des richesses qui étaient dévolues au salaire vers le capital, et que une manière de compenser pour soutenir la consommation, de compenser ce transfert, ça a été de favoriser le crédit. Le crédit, est-ce que c'est ça?
Alors, un peu moins peut-être en Irlande qu'ailleurs, mais ça c'est le modèle général. C'est-à-dire que à partir du moment où la financiarisation du capitalisme avait mis sous l'été noir la progression des salaires, on pourrait dire tout pour l'actionnaire, rien pour les salariés, le crédit à la consommation est devenu un moteur auxiliaire de la dépense de consommation, en même temps qu'une soupape de sécurité économique et politique, parce que c'était une manière de dire aux ménages, mais vous pouvez continuer à consommer, même si vos revenus n'augmentent pas, vous n'avez qu'à vous endetter. Donc ça avait à la fois cette vertu économique de constituer un moteur d'appoint à la croissance de la dépense, et d'être un peu une soupape de sécurité politique dans ce capitalisme financiarisé. En Irlande, c'était un petit peu différent. Ce qui a véritablement poussé à l'endettement des ménages, c'est moins l'insuffisance de la progression de leur salaire, parce que c'était quand même une économie qui était en plein boom, y compris au niveau du produit intérieur brut, elle était en croissance très rapide, donc c'était pas tellement la faiblesse de la progression des salaires, mais c'était la perspective de devenir propriétaire et de voir sans cesse le prix de son logement augmenter sur le marché de l'immobilier. Donc tout le monde a été embringué dans cette spirale spéculative où les crédits étaient gagés sur l'évolution des prix de l'immobilier, et les banquiers pensaient qu'ils avaient entre les mains des gages suffisamment sécurisés pour prêter à des ménages qui n'auraient peut-être pas les évolutions de revenus prévues. Et par ailleurs, le modèle, entre guillemets, le modèle, c'est pas un exemple, mais le modèle de développement irlandais a été beaucoup assis aussi sur défiscalisation et désocialisation, absence de charges sociales sur le travail. Donc c'était une espèce de gros paradis fiscal et social en Europe, où l'impôt sur le bénéfice des sociétés était très faible, et où les charges sociales sur les salaires étaient ridiculement faibles également. Donc c'est surtout ça qui a été l'élément du boom irlandais, la capacité de l'Irlande à attirer sur son sol des sociétés à la fois financières mais aussi de services qui ont trouvé là un Eldorado.
Mais la situation finalement en Irlande, c'est un peu ce que chaque économie nationale a tenté de faire. L'Irlande a réussi de manière quasi parfaite ce que les autres aspiraient à faire, comprimer les charges sociales, défiscaliser, etc. quoi.
Exactement. Et en particulier en Europe, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'est engagée une concurrence entre les pays européens. Par la pression sur l'évolution des salaires. Et dans ce cadre-là, certains jouent plutôt cet argument compétitif. On pourrait dire c'est l'Allemagne. L'Allemagne essaie de développer sa compétitivité économique en faisant une pression draconienne sur l'évolution des salaires. C'est comme ça que l'Allemagne accumule des excédents commerciaux et donc fait tirer son économie par l'extérieur. En Irlande, c'était plutôt l'autre volet, défiscalisation des hauts revenus, défiscalisation des profits, et puis évidemment maintien tout de même de la part salariale à un niveau raisonnable, parce qu'elle s'était moins grévée de charges sociales. Donc tout le monde en Europe à peu près est sur ce modèle de compétitivité par les coûts. Quoi qu'on en dise d'ailleurs de l'Allemagne, hein, c'est bien un modèle de compétitivité par les coûts. La qualité allemande, elle n'a pas changé depuis 25 ans, c'est toujours très bon. Hein. BMW, c'est bien, je vous rassure. Les machines-outils allemandes, c'est bon. Mais ça, c'est né varié tour. Ça fait 50 ans que c'est comme ça. Donc ce qu'il y a vraiment de nouveau dans la compétitivité allemande, c'est cette espèce de taïwanisation de son économie, c'est-à-dire une forme de concurrence par salariale. Donc oui, effectivement, c'était le modèle européen.
Alors les oui, vas-y.
Vas-y, Jean.
Non, c'était pour faire le lien avec les politiques qui sont mises face à cette situation. On a l'impression que ça continue dans le même sens. Par exemple, en Irlande, on comprime les salaires, on attaque les retraites et on touche pas. Ils veulent pas toucher à 12, c'est 12 et demi ou 13
et demi. C'est 12 et demi.
L'impôt sur les sociétés,
alors que la moyenne européenne est plutôt autour de 25-30, ouais. 28-30. Il me semble. Oui. Donc ça, c'est sacro-saint. Hein. Les Irlandais ne veulent pas y toucher, mais ça va devenir intenable, hein, cette position, parce que bon, d'autres pays européens commencent à être un petit peu fâchés. Il en faut quand même beaucoup pour fâcher les dirigeants libéraux européens, surtout sur la question des profits. Bon, enfin là, ils commencent à être un petit peu agacés d'aller secourir un pays, un État, des banques qui ensuite vont essayer de se tailler une partie de leur développement économique sur la concurrence fiscale qu'ils font au reste de l'Europe. Donc il y a un moment quand même où les libéraux se disent bon, on va peut-être un petit peu trop loin dans la doctrine, et finalement on s'aperçoit que ça peut nous être préjudiciable à certains moments.
Oui, donc tu parles d'un modèle européen sur un plan économique en termes de réponse à la crise. Mais enfin bon, en même temps tu nous expliques quand même des différences,
oui, hein, oui.
Au sein même de l'Europe. Et justement, bon, on a aussi entendu parler d'une remise, enfin, de grosses inquiétudes par rapport à ceux qui l'ont mis en place concernant l'euro. Est-ce que cette situation menace clairement, par exemple, l'euro, la politique monétaire européenne ?
Disons que il faudrait avoir un plan de parti et très peu nuancé sur chaque parti, c'est-à-dire que les menaces sur la zone euro n'ont jamais été aussi fortes. Je vais faire un petit peu Sciences Po. Néanmoins, la sortie de la zone euro ou le fractionnement de la zone euro, c'est quelque chose de difficilement envisageable. C'est-à-dire que ce qui constitue aujourd'hui les principales menaces d'éclatement, c'est l'absence de certains pays de faire jouer une solidarité budgétaire et monétaire en cas de dérapage d'un autre pays. Bon. Donc si ce manque de solidarité se prolonge, on se dit que pour certains pays, ils n'auraient aucun intérêt à continuer à rester dans ce cadre de la zone euro et pourraient vouloir en sortir. Mais surtout, les autres tensions, à mon avis, sont plus fortes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur les décalages de compétitivité entre les pays européens. C'est-à-dire que depuis la mise en place de la zone euro, les pays ne peuvent plus dévaluer leur monnaie lorsque leur économie perd en compétitivité. Ce qui est le mode de réajustement à peu près normal du commerce extérieur et des difficultés à équilibrer son commerce extérieur. Bon, quand on n'arrive plus à vendre aux autres parce que nos produits sont trop chers, parce que l'augmentation des salaires a été plus rapide chez nous, et donc l'augmentation des prix également plus rapide, bah, la manière dont ça se réglait avant, c'est on dévalue la monnaie, ce qui rend de nouveau attractives nos produits à l'extérieur, mais par contre, plus chers les produits extérieurs à l'étranger. Bon, on doit, dans ces cas-là, accepter aussi le sacrifice de ne plus pouvoir s'acheter autant de produits à l'étranger. Mais ça, c'est plus possible aujourd'hui dans la zone euro. Or, on a accumulé à peu près une dizaine d'années de croissance très différenciée de l'inflation salariale dans les différents pays européens. Et en fait, ces problèmes qu'on dit des problèmes de compétitivité sont très peu des problèmes de perte d'efficacité productive. C'est-à-dire que les gains de productivité des différents appareils industriels et de services dans la zone euro, ils ont été à peu près au même rythme. Hein, la croissance de la productivité depuis 10 ans, c'est 55% à peu près partout en Europe. Bon. Donc c'est pas que les appareils industriels ou de services se différencient, il y en a qui deviendraient mauvais et d'autres qui deviendraient excellents, c'est que les traditions de négociation, les régulations du marché du travail sont très différentes d'un pays à l'autre, et puis dans certains pays il y a eu 15% d'augmentation des salaires et des prix, et dans d'autres ça a été une maîtrise totale du niveau d'évolution des salaires et des prix. Donc c'est uniquement les différentiels d'inflation qui ont créé les déséquilibres de compétitivité entre les pays européens. Puis là, c'est sans solution, à moins de dire aux uns, vous avez mangé votre pain blanc, et maintenant il faut baisser vos salaires de 15%. Ça c'est impossible à faire. Bon, non seulement vous auriez la révolution, mais en plus, ce serait alourdir encore le fardeau des dettes dans les pays où on organiserait sciemment la déflation salariale. Parce que si on vous disait la croissance des salaires c'est fini, ou même c'est l'inverse qu'il faut faire, ça plongerait encore ces pays dans la dépression. Donc on voit pas bien comment ces problèmes peuvent se régler à l'intérieur de la zone euro, et on pourrait faire la deuxième partie du plan, mais ce sera peut-être pour une autre fois. On n'imagine pas bien ce que pourrait être une sortie de certains pays de la zone, et pour eux ça pourrait être en fait terrible. C'est-à-dire c'est déjà terrible dans l'euro, mais s'il sortait, le mouvement de sortie lui-même pourrait être terrible. Et c'est souvent comme ça en économie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer simplement « ils y sont » et comparons avec « s'ils n'y étaient pas », parce que là, oui, on pourrait dire « oui, j'aurais intérêt à ne pas y être ». Bon, mais le problème, c'est la traverse. Hein. C'est que tout ça se déroule dans l'histoire, et dire qu'on va sortir de l'euro... Par exemple, très rapidement, un pays qui dirait « on sort de l'euro », la Grèce par exemple, les taux d'intérêt sur sa dette publique s'envoleraient tout de suite. Parce que les marchés financiers, enfin les agents sur les marchés financiers se diraient « bon bah ils vont, s'ils sortent de la zone euro, c'est pour dévaluer leur monnaie très rapidement. S'ils dévaluent leur monnaie, c'est que nos avoirs et nos créances sur l'État grec vont perdre 25 à 30%. Pour prêter à la Grèce, maintenant, il faut mettre une prime de risque sur les taux d'intérêt de 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. Donc, c'est qu'un exemple. Hein. C'est qu'un exemple de ce qui pourrait se passer. Mais très rapidement, puisque tout s'est internationalisé par la finance, faire croire qu'on retrouve de l'autonomie dans ces politiques économiques parce qu'on n'est plus dans la zone euro, il faut d'abord mettre la finance au pas, toute la finance mondiale au pas, si j'ose dire.
Philippe, hein, je t'ai vu tiquer là sur un petit mot de Laurent. Si on annonce 15% de baisse de salaire, c'est la révolution ?
Je sais pas. C'est pas sûr.
C'est pas sûr, oui.
Ce sera le problème.
C'est pas sûr.
Non, c'est... Ouais. C'est pas sûr, c'est pas quand on a le moins de salaire qu'on est forcément les plus révolutionnaires.
Jean, oui, tu veux parler de... Non, ton voyage en Syrie, c'est ça, non? Non, on peut faire le lien peut-être... Tu voulais faire une pause musicale, on peut peut-être faire le lien avec le mouvement avec le mouvement social des retraites ou...
Exact, oui. Vas-y Guy, fais ton...
Oui, mais le problème, c'est que genre, moi, je...
T'as la transition.
Ben oui, mais j'ai pas de casque, alors je t'entends pas. Donc...
Tu m'entends pas,
musique ou... Non, c'est pas grave. Musique ou pas musique?
Ben non, vas-y.
Bon, ben alors, donc, le mouvement social. Donc, mouvement social qui... On peut le dire, sur les retraites, c'est terminé. C'est terminé le 23 novembre. Hein, j'ai sous les yeux le dernier communiqué des organisations syndicales au niveau national qui s'est réuni le 29 novembre dernier. Après la journée du 23 novembre, qui était c'était un constat partagé par tout le monde, journée qui clôturait la phase de mobilisation sur la loi sur les retraites. On l'a vécu à Arras, on l'a vécu dans la région. À Arras, il n'y avait même pas de manifestation le 23, pas d'action particulière. Il y avait une manifestation à Lens, je pense qu'ils étaient 200. Et une manifestation à Lille le 23, qui n'a pas eu lieu finalement. Il y avait 300 personnes qui étaient réunies, il y a des prises de parole et c'est tout. Alors bon, et puis au niveau intersyndical national, il reste plus que 5 organisations, il faut le rappeler quand même, CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, FO, CGC, CFTC ont quitté le navire. Alors les organisations ont quand même décidé de poursuivre des réunions de cette intersyndicale nationale, de tenter de pérenniser la dynamique créée par la mobilisation, notamment une mobilisation née avec la crise amplifiée avec le dossier des retraites. On va y revenir, même si la mobilisation n'a pas obtenu satisfaction, à savoir le retrait de cette réforme, de cette loi, ou tout au moins des amendements à la loi, hein, puisque toutes les organisations syndicales, il faut le dire, n'étaient pas sur la même ligne revendicative. En tout cas, personne au niveau syndical n'a obtenu satisfaction, puisque la loi a été adoptée en l'état. Néanmoins, il s'est passé des choses, on va peut-être y revenir, qui peuvent laisser présager... Des rebonds dans les mois, dans les trimestres qui viennent. Donc l'intersyndicale a décidé de poursuivre ces réunions, d'interpeller. Alors il y a une nouvelle journée de mobilisation, mais beaucoup plus floue, d'interpeller le gouvernement, les parlementaires dans le cadre d'une journée européenne de la CES, l'organisation syndicale européenne, qui regroupe des organisations syndicales au niveau européen. Donc ça, c'est le 15 décembre prochain, mercredi prochain. Donc il n'y a pas d'action comme on en a connu pendant le mouvement. Il y a des interpellations des parlementaires et des gouvernements. Et puis donc, l'idée, c'est de réactualiser une plateforme intersyndicale, la plateforme du 5 janvier 2009, au regard donc des enjeux de la période actuelle, que sont l'emploi, la protection sociale, la fiscalité, le pouvoir d'achat. Donc voilà pour le contexte intersyndical. On peut peut-être revenir sur ce qui s'est passé localement, pour illustrer ce qui s'est passé un peu partout en France. Donc quand même une mobilisation forte, on peut le dire, des réseaux qui se sont créés, des solidarités, des actions un petit peu différentes. Alors je sais pas comment on va appeler ce mouvement, octobre 2010, ou c'était octobre.
Ça a commencé beaucoup plus tôt en même temps que... Ah oui, ça, octobre, ouais. Toi tu dis octobre de quelle année?
Bon, enfin bon, tu sais, mai 68, c'est pareil, c'était pas que mai 68, quoi. Ouais. Bon, enfin bref, décembre 95, c'est vrai que on parle de décembre 95, donc ouais. Voilà, souvent on aime bien
associer. C'est vrai que ça avait commencé en juin et ouais. que ouais. ça a rebondi en septembre. Enfin, ça, ouais. C'est le 7 septembre.
Oui, mais sauf que le mouvement social fort, c'est quand même avec des appels à grève,
la possibilité dans différents secteurs. Possibilité de grève reconductible,
c'est à partir du 12 octobre. Ouais. Et les actions les plus significatives, les grosses grèves reconductibles dans les raffineries, etc., la SNCF, c'est au mois d'octobre. Mmh. Les gros blocages, la pénurie d'essence, etc., c'est quand même au mois d'octobre.
Ouais. Alors moi, j'étais pas en France, donc à partir de début novembre. Et quand je suis rentré, j'ai eu Philippe justement au téléphone qui m'a dit « Mais c'est bizarre, c'est comme si c'était rien passé. » Et ça a un peu traduit mon sentiment en arrivant en France. On a l'impression qu'il s'est rien passé. On n'en a entendu plus parler, rien du tout. Ce mouvement, est-ce qu'il a existé, quoi? Et bon, évidemment qu'il a existé, hein, mais c'est marrant comme un phénomène comment on peut faire disparaître quelque chose comme ça de la scène publique. Or, il y a eu une vraie réalité, un vrai mouvement social, mais qui n'a pas pu se traduire par un mouvement. Bon, tout le monde parlait de bloquer l'économie, mais bloquer l'économie, c'est faire en sorte que c'est le fait que les gens ne travaillent plus, arrêtent de travailler. C'est bon. Les actions de blocage, c'était à la fois symbolique, mais il y avait un côté aussi substitut à ce qui bloque réellement l'économie, c'est-à-dire quand les gens qui travaillent ne travaillent plus, quoi. C'est-à-dire sont en grève, quoi. Hein.
Oui, c'est ça qui rend le mouvement compliqué à juger dans son intensité. Moi, j'ai tendance à penser que c'était un mouvement extrêmement fort parce que dans la période actuelle, c'est vraiment pas facile pour les salariés, beaucoup moins facile encore qu'il y a 10 ans, d'essayer de prendre des risques. Hein. Et donc, ça, c'est quand même une grosse donne du mouvement. Se mettre en grève, perdre des journées de salaire, c'est devenu encore bien plus problématique qu'il y a une dizaine d'années. Bon, non seulement le chômage est reparti à la hausse très rapidement, et ça tout le monde le sait, donc c'est pas le moment de faire le guignol. Ensuite, dans les entreprises et les grandes entreprises, le talon de fer patronal et actionnarial n'a jamais, c'est surtout dans les grandes entreprises, mais dans les PME c'est plus diffus, et n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc il y a une vraie prise de risque quand on est un salarié pour se mettre en grève. On peut être le premier à éjecter dans le moindre plan de licenciement, etc. Et puis il y a ça, cette pile d'endettement des ménages qui les met complètement sous pression, et ces salaires qui n'évoluent plus depuis 10 ou 15 ans. Ça veut dire que vraiment les gens, jusqu'à un niveau de la hiérarchie salariale relativement élevé, la plupart de nos concitoyens sont quand même dans une situation économique extrêmement précaire, difficile, quoi, qui fait que c'est pour eux c'est très très difficile de se mettre en grève. Du coup, le mouvement à travers sa masse et ses journées répétées dit quand même quelque chose de très fort sur la volonté de nos concitoyens d'essayer de renverser cet ordre des choses, tout de même. Donc il faudrait quand même pas que les hommes politiques le prennent un petit peu à la légère en disant, comme disait Sarkozy, de toute façon maintenant, quand il y a 2 millions de personnes dans la rue, je sais plus ce qu'il disait, personne ne le voit, ou ça passe inaperçu. Et comme tu disais, peut-être on a l'impression que le rond dans l'eau se referme rapidement, on n'en parle plus, mais à mon avis tout ça c'est stocké quand même quelque part, et moins on offre de débouchés politiques possibles à ces mouvements sociaux, moins on les écoute, moins il y a d'espace pour la négociation, plus ça peut se terminer réellement mal, quoi, politiquement, il me semble. Et peut-être que les présidentielles de 2012 n'auront pas du tout l'effet qu'escompte Sarkozy, qui en gros, son analyse, c'est « j'aurais montré que j'avais des muscles et que j'étais l'homme de la réforme ». Je pense qu'il y aura peut-être des surprises dans son camp.
Philippe, un mot là-dessus ?
Moi, j'étais frappé par des... Je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes, quoi, dans ce mouvement, parce que à la fois, il a été effectivement massif, mais sans déboucher sur des reconductions suffisantes. Et d'ailleurs, il y a des secteurs, qui étaient quand même traditionnellement des secteurs assez forts dans les luttes. Je ne sais pas, EDF, l'éducation nationale, etc., qui ont été finalement assez peu mobilisés. Et d'autres secteurs dans le privé qui, au contraire, ont été assez présents. Ensuite, je pense aussi qu'il y avait quand même l'idée que ça allait être très difficile de gagner. Et pourtant, on le fait, quoi. Donc ça, c'est effectivement, je pense que ça traduit évidemment la mobilisation sur les retraites, mais quelque chose de plus large. C'est-à-dire que, et là, je rejoins ce qu'il y a dit. C'est-à-dire, je pense que on a perdu un peu comme... évidemment, on espérait gagner, mais comme c'était finalement quelque chose de possible, quoi, enfin, et peut-être de prévisible. En tout cas, on savait qu'il fallait aller très loin pour pouvoir faire reculer le gouvernement. Mais en même temps, ça traduit un mécontentement extrêmement fort, quoi, un rejet très profond du système dans lequel on vit. Alors, effectivement, pour l'instant, il a pas de débouché politique. Je pense que ça explique aussi. Effectivement, ce dernier paradoxe, qui est un mouvement très, très massif. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. On se retrouve dans le vide. Mais ça ne dit pas que ça ne va pas reprendre. Et puis après, moi, je pense que l'une des faiblesses du mouvement, c'est que ça n'a pas débouché vraiment sur des formes d'auto-organisation des salariés et des luttes, quoi.
Oui, il y a eu quelques phénomènes quand même d'auto-organisation. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'assemblées générales interprofessionnelles, mais qui restaient des assemblées de mobilisation surtout, des structures unitaires de lutte, mais pas vraiment d'auto-organisation des salariés. Oui, Laurent, tu voulais dire...
Alors, je ne sais pas de quel poids ça pèse, mais même si ça ne pèse pas d'un grand poids, l'idée peut être intéressante tout de même. Je pense quand même que ce qui... Là où je te suis, et c'est d'autant plus remarquable, c'est que effectivement beaucoup de gens se sont mobilisés avec l'idée que de toute façon, on ne gagnerait pas. Voilà. Et ça, c'est incroyable quand même, parce que où on va puiser l'énergie dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quand même la marmite qui boue, quoi. Donc ça, moi, je trouve que tu as bien fait de noter ça, et c'était... plutôt mon état d'esprit. Je pensais qu'on n'en viendrait jamais à bout. Et que... bon, mais l'une des raisons peut-être pour lesquelles on a du mal dans ces conditions-là à enfoncer un coin, c'est qu'il n'y a pas de contre-projet quand même. Enfin, y a des petites guirlandes de propositions qui traînent dans les appareils syndicaux, mais ça ne fait pas un contre-projet. Or, nos concitoyens, je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement le niaque de se mobiliser simplement aujourd'hui pour refuser un projet. Et je crois que sur une question comme ça, il ne faut pas être à ce point-là dans l'hétéronomie et disons aussi une position d'impuissance, quoi. C'est aussi se mettre dans une position d'impuissance que de ne pas pouvoir combattre sur un contre-projet, et un contre-projet crédible. Puisque là, on est quand même dans des trucs où il ne s'agit pas d'inventer la société d'après-demain. Enfin, peut-être certains le croient, mais la sécurité sociale, ça existe depuis 50 ans. On sait comment ça fonctionne. Les ratios démographiques, on sait comment ça fonctionne. Le système des prélèvements, on sait comment ça fonctionne. Donc, si on veut faire autre chose que d'allonger la durée de temps de travail, d'ailleurs de manière illusoire, on doit pouvoir bâtir un contre-projet et au moins avoir certaines lignes de consensus entre les syndicats. Et ça peut être davantage mobilisateur et très large. Enfin, du point de vue de l'opinion publique aussi, qui d'ailleurs n'a pas fait défaut hein, par rapport au mouvement, mais du point de vue de l'opinion publique, ça l'entraîne encore plus loin en disant mais oui, il y a une autre solution, cette autre solution, elle n'est pas du tout irréaliste. D'ailleurs, c'est même elle qui est la plus sérieuse. Je crois que ça nous manque. Et je trouve que c'est de plus en plus embêtant de se mobiliser sans contre-projet.
magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Un tumulte un peu spécial. Le précédent tumulte, c'était le numéro 1050. Et ce soir, c'est le 1051. Et 1050, c'est 1000. On a fêté les 1000. Plus 50. Et là, on a un autre anniversaire à fêter.
Eh oui. C'est l'anniversaire de Guy.
Ce soir. Mais 51, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, bah, ce sera l'année prochaine.
Ça fait un peu pastis. Et donc, on va déraper là. Hein. On a l'arrivée de notre ami corse, Thierry. Vas-y, Thierry, on t'écoute.
Prieuse, voire impossible mission que celle confiée par le néo-retraité Jean Pascolini d'écrire en très peu de temps l'éloge du cinquantenaire de son frère spirituel et radiophonique Guy. Ne reculant devant rien, j'ai relevé péniblement le défi et vais de ces mots vous brosser un portrait non exhaustif du camarade Guy. Tout a commencé il y a donc 50 ans, aux environs du 24 novembre 1960, par sa naissance sur le territoire national. À cette époque, le droit du sol primant encore sur le droit du sang, Éric Besson étant encore à l'état de spermatogonie dans les testicules de son père et d'ovocytes dans les ovaires de sa mère, le bébé Guy de souche immigrée acquit la nationalité française, mais avec un nom imprononçable, Lesniewski. Marque d'une indéniable origine polonaise. Je ne me hasarderai pas sur une contrepétrie facile concernant ses parents, père à la mine, mère au foyer. Guy, enfant unique, reçut de ses parents une éducation stricte destinée à lui assurer une intégration parfaite dans la société française. En aparté, Jean cesse de harceler Guy pour qu'il te présente sa sœur Monica, sous prétexte de partager avec elle quelques cigares ou autres pipes, si affinité avec elle. Elle, c'est Lewinsky, pas Lesniewski. Perfectionniste, il a renoncé à l'accent polonais pour adopter notre magnifique accent du Nord, Pas-de-Calais. Les « a » n'ont qu'à bien se tenir. Il les écrase. Que dis-je ? Il les broie à la ch'ti. Il n'a qu'un seul défaut de prononciation, le « oui », qui la donne péniblement et maladroitement « oui ». Je n'en dirai pas plus, car il est très susceptible sur ce problème orthophonique. Son ascendance polonaise le prédestinait à deux métiers, mineur ou plombier. Il échappera de peu au premier en raison de la fermeture des puits et de l'arrêt de l'exploitation du charbon, et son aptitude au bricolage l'écartera de la plomberie low cost. Pour lui, l'ascenseur social a fonctionné puisqu'il deviendra COP, conseiller d'éducation psychologue, et même directeur de CIO, mettant exceptionnellement de côté et à son endroit son aversion pour le patronat. Car Guy est un militant, un agitateur d'idées, un manifestant chronique et un gréviste compulsif. La lutte des classes et le combat permanent pour davantage de justice sociale sont sa raison d'être, son saint Graal. C'est à Sud qu'il milite pour faire triompher cet idéal venu de son Est. Attardons-nous sur quelques-unes de ses multiples activités. Le foot, qu'il ne pratique plus que dans des conditions climatiques favorables, mais toujours avec la même rugosité au niveau du tact, qui lui valent les doux surnoms de faucheuse ou de sécateur. Il aime de nombreux styles de musique, de Bob Dylan à Miles Davis, en passant par des groupes improbables tels que A3 dans les WC. Qu'a-t-il bien pu y faire ? Il met enfin ses talents d'orateur et sa voix suave au service des oreilles des auditeurs de PFM en animant la chronique Désiré, Noir c'est Noir, dans l'émission Tumulte. Le polar, les séries noires le passionnent et j'en profite ce soir pour lancer un appel aux dons et inventer à l'instar du Téléthon une sorte de Guy Polarskiton. Si vous souhaitez vous débarrasser de livres, de collections de polars ou de séries noires, ne les jetez pas, amenez-les tous à PFM, 61 Grand Place, 62 000 Arras. Toute équipe de la radio se fera un plaisir de vous les récupérer 24 heures sur 24 et les offrir à Guy. Je finirai ce modeste billet par une citation profonde de Guy à propos de Jean, qui a eu d'ailleurs beaucoup de mal à me la restituer correctement, début de sénilité précoce oblige. « Tu changeras de décennie avant moi. » Bah ouais mon gars, et avec un peu de chance, il partira aussi avant toi. Bon anniversaire Guy, et travaille un peu ton « oui ».
Bon anniversaire Guy.
Ouais, Guy,
merci.
Guy, on va lui demander une petite réaction. Hein.
Petite réaction, moi quand j'ai vu, j'ai tout de suite compris parce que j'ai vu Slimane passer là dans le couloir et tout. Je me suis dit c'est bizarre Slimane s'il est là. C'est que Jean a essayé de me copier quoi. Hein, pour une fois c'est l'inverse et faire la surprise. Et quand j'ai vu arriver Thierry, je pensais plutôt qu'il viendrait pour parler avec toi, Jean, de la Syrie, hein, puisque c'est un point commun entre vous deux. Vous y avez passé un long séjour. Jean peinard en vacances. Toi, Thierry, c'est parce que t'as pas pu rentrer comme tu voulais.
Hein. Par un volcan.
Voilà, bloqué par un volcan en Syrie, alors qu'il n'y a pas de volcan en Syrie, mais enfin, bref. Si. Donc voilà, c'est pas pour parler Syrie, mais c'est gentil de votre part, ça me fait plaisir. Puis il y a même un cadeau, il y a Thierry aussi, ça c'est super. S'il a choisi une BD, j'ai confiance, hein, puisque c'est le grand spécialiste de la BD. Merci Thierry, en direct, je reçois un cadeau, c'est sympa. Je vais pas le déballer en direct. Hein,
là c'est obligatoire que tu regardes.
C'est obligatoire, en direct.
Tu regardes. Tout, bon, il y a juste un petit morceau de scotch.
Il y a trop de choses là.
C'est PFM.
Et il n'y a pas de bouteille en plus. Il n'y a pas de bouteille.
Les bouteilles, c'est après.
Alors,
PFM est passé au reality show.
Donc on a parlé de... Oui, vas-y.
Bah c'est ça, c'est comme ça maintenant à la télé, tu sais. À l'invité, on lui fait un gros plaisir, on lui demande ses réactions directes. Alors, tu dois dire que t'es heureux, etc. Et alors là, il n'y a pas de caméra, donc il faut essayer de... Que le commentaire soit soigné.
Ouais, d'accord. Bon, donc on a parlé de Bob Dylan, de A Trois dans les WC, de Miles Davis, de qui, de... Johnny Cash, etc., John Lennon. Eh ben, donc, il y a un livre, là, qui arrive, qui est un livre de Patti Smith. Ah, un bruit sympathique. Un livre qui plairait aussi, je suppose, à Patti Smith. Just Kids, hein, c'est l'histoire de sa relation avec son compagnon, je crois, genre, c'est ça, un photographe.
Oui, compagnon, on peut dire comme ça, mais Matt Oldthorpe, ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, en plus, on n'entend pas, genre, hein, je sais pas ce qu'il a fait, mais on l'entend pas. Donc, déjà, merci beaucoup. Merci à vous. Là, attention, la guerre et la paix de Tolstoï.
Bon, alors, on espère que tu l'as pas encore lu. Guy.
Comment ?
On espère que tu l'as pas encore lu.
Bah, je l'ai lu, bien sûr, j'ai lu quand même. Hein, mais je l'ai pas dans cette version. Et c'est marrant parce que Tolstoï, là, on en parle un peu. Parce que c'est sa femme dont on vient de publier une sorte d'autobiographie qui est une réponse à un des derniers textes de Tolstoï. Alors j'ai plus le titre, mais c'est un roman très dur de Tolstoï sur le mariage, anti-mariage, donc il critique bien entendu cette institution civile, religieuse, etc. Donc il a fait ça à la fin de sa vie, hein, après avoir vécu 30, 40
oui,
ans.
Oui, quand même.
Mais ce texte, il est vraiment très, apparemment très fort, et donc il y a la réponse de sa femme dont on parle en ce moment. Donc ça, c'est Tolstoï, mais cette édition-là, la Pléiade, c'est beau, puis je m'y remettrai. Hein. Mais pourquoi, pour la guerre ou pour la paix, alors, genre?
quand tu l'as lu, le titre, c'était quoi, Guy, pour toi?
Bah, c'est
Guerre et paix.
Ouais, c'est Guerre et paix. Moi, je l'ai lu, tu sais, chez le même éditeur, mais une collection nettement moins prestigieuse, en folio, en trois volumes, d'ailleurs, deux ou trois volumes. Je pense que c'est Guerre et paix. Bon, le titre, on s'en fout, non?
Ouais, non, mais je me disais que c'était une nouvelle
traduction. Guerre et paix. Bon, on en discutera après.
Notre raisonnement, c'était un peu celui de Ségala, mais Ségala, revu et corrigé, version PFM, c'est qu'un homme qui n'a pas lu Guerre et paix à 50 ans a raté sa vie.
Bon. D'accord.
Voilà. Ça met un peu un contrepoint sur la Rolex.
Il te reste
combien mais toi,
deux ans. Bon, t'as largement le temps.
Oui, oui,
t'as largement le temps. Il faut, on va dire, l'été en Corse, trois semaines.
Ah,
trois semaines.
Impossible.
Non, t'as pas
alors,
encore,
Guy ouvre le troisième paquet.
Alors, dernière chose, l'album, un album SoFoot, football total et contre-culture, aux éditions Solaire. Alors, je connais un peu SoFoot, c'est un magazine...
Là, dans le studio, nous avons Thierry Crépin, notre spécialiste football.
Thierry,
donc, on va lui dire, on va proposer à quelqu'un de lui laisser le micro. Vas-y... Donc, faut pas toucher.
J'ai très peu à dire, sinon que SoFoot, c'est des journalistes qui essaient de donner un autre regard sur le football, un regard décalé, un regard moins pollué par l'argent, et un regard parfois nostalgique sur le foot tel qu'il était pratiqué auparavant.
Mmh. Alors, bon,
toi, tu connaissais Guy, SoFoot?
Comment
c'est trop
ouais, j'ai acheté le numéro d'après Coupe du Monde, hein, parce que je voulais avoir un regard un peu différent, hein, sur ce qui s'était passé. Bon, j'ai pas trouvé que c'était très différent, hein, de l'équipe que tu lis tous les jours, parce que quand tu lis l'équipe tous les jours, bah, ça revient au même. Mais en tout cas, ça, c'est pas mal. Alors déjà, la couverture, elle est belle. Et il y a un joueur, vraiment un joueur culte, hein, mythique sur cette couverture. Et il a un point commun avec moi. Alors déjà, ce joueur, c'est qui?
Moi, je dirais que c'est
Maradona.
C'est Maradona. Et le point commun?
Il a le même âge, non ?
La drogue, premier.
Donc et il est polonais.
Il est polonais, deuxième, donc un troisième point commun. L'alcool. L'alcool, quatrième. Bon, il y a un cinquième point commun.
Il a plus son permis non plus.
Il a plus son permis. Bon, lui, il l'a jamais eu, hein, donc... Non, il a fêté ses 50 ans cette année. Il est de 60. Et il y a un autre sportif dont on a un peu parlé ce week-end. Hein, qui, non, on en
mais,
a pas
mais,
parlé.
Mais il y a une différence quand même, c'est que lui, il a marqué des buts pour l'équipe d'Argentine.
Moi, j'ai marqué des buts pour l'équipe de PFM.
Il va bosser en Iran aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc, Maradona, 50 ans. L'année 60, une belle génération. Il y a aussi Yannick Noah qui a eu 50 ans cette année. Donc, vraiment, une année de sportif, hein, Thierry. Dimanche prochain, donc respect. Bah, merci, hein. Bon, Jean.
Bah voilà, non, bah Jean, tout le
je
monde.
Je te revaudrai ça. Je te revaudrai ça. Il ah, y a des fouteux là-bas dans la, la cabine, je vois, en plus.
Il y a du monde qui arrive, bon, bah, c'est bien. Donc les,
des bah, fouteux, des étudiants, il y, y a du monde. Y a du monde. Eh ben, merci, merci à tout le monde. Et puis, donc on parlait de quoi déjà ce soir là ?
Ah bah de tes 50 ans, voilà. C'est terminé.
Voilà, et eh bien on va écouter un petit peu de musique avant la fin de cette émission.
The hardest thing I've ever told you, didn't you know? I've never felt so mean in my life before, didn't you know? I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes up and know about me. Don't you know it? Me, 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 me. Yeah, it's all about me.
Eh bien, c'est sur cette note joyeuse que se termine ce magazine Tumulte. Les bouteilles et les bouchons vont sauter. Du magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h et 16h30 à 23h et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut !